Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Temps des Fleurs. Nous allons prendre la suite de l'émission sur les haies. Alors, la première émission consistait à expliquer ce qu'était une haie et surtout tous les rôles et tous les avantages qu'elle peut nous apporter. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler des plantes qu'elle accueille. Et il y a un des rôles dont je ne vous ai pas parlé à l'émission précédente, c'est tout ce qu'elles peuvent nous importer en termes de consommables et tous les usages que l'on peut trouver autour des plantes. Et là, on va parler essentiellement des arbres et des arbustes les plus fréquents que l'on trouve dans nos haies et aussi les plus faciles à reconnaître en balayant brièvement les nombreux domaines dans lesquels ils peuvent nous être directement utiles en produisant notamment divers types de consommables. On peut commencer par le frêne. Vous le reconnaissez assez facilement, c'est cet arbre qui fait des feuilles opposées et des feuilles composées de 5 folioles en général. Son surnom au frêne, c'est le quinquina d'Europe. L'écorce de ces rameaux a une propriété fébrifuge, qui ont un excellent pouvoir anti-inflammatoire et détoxifiant de notre organisme. Donc en fait, on va pouvoir l'utiliser contre les rhumatismes, contre les problèmes d'arthrite et de gouttes, en éliminant finalement l'excès d'acide urique qu'on a dans notre organisme. Il est aussi très efficace sous forme de gémothérapie, en tant qu'anti-inflammatoire et anti-rhumatismal, et aussi parce qu'il va aider à drainer le foie et la vésicule biliaire et les reins. Alors, les feuilles ont aussi la propriété d'être toniques, apéritives et laxatives. Et on va retrouver un petit peu ces propriétés aussi dans la frénette que vous connaissez peut-être, qui est une boisson en fait qui est artisanale et qui est constituée à l'aide de la macération des feuilles de frêne. C'est une boisson qui est réputée être de santé et de longue vie parce que justement elle va pouvoir avoir quelques-unes de ses propriétés du frêne. Donc cette boisson, on récupère les feuilles courant été et qui sont légèrement collantes parce qu'elles sont recouvertes d'une espèce de miella qui est issu des blessures provoquées par des pucerons. Ce n'est rien d'autre qu'une sève sucrée qui sort des feuilles et qui va être utilisée pour justement sucrer cette macération et qui va permettre la fermentation de la boisson qu'on pourra goûter à l'occasion. Et c'est légèrement alcoolisé et un petit peu pétillant selon la fabrication. Alors les feuilles aussi ont été très utilisées pour nourrir le bétail parce qu'elles ont une forte valeur fourragère. Et c'est notamment intéressant dans des régions qui peuvent être soumises à des problèmes de sécheresse et à manquer d'herbe pour le bétail. Donc on dit dans le Lot, on fait de la feuille. C'est faire de la feuille que de effeuiller les arbres des haies pour pouvoir le donner au bétail et aussi l'utiliser comme litière dans les box pendant l'hiver. Et cet effeuillage était souvent associé aussi à l'émondage des arbres. Et l'émondage, c'est une pratique qui consiste à couper les branches à taille humaine ou alors à taille d'échelle pour faire finalement du bois de chauffage ou alors des fagots. Et ce genre de pratique a aussi donné une architecture aux arbres que vous connaissez peut-être sous le nom d'arbres têtards ou alors arbres souches pour lesquels on a coupé la tête et on coupe régulièrement les branches qui poussent pour justement faire du bois facile. Les anciens, ils étaient pas bêtes et plutôt que d'utiliser beaucoup d'énergie, ils pouvaient couper à hauteur d'homme ou à hauteur d'échelle du bois à la scie et du petit bois qui servait en tant que bois de chauffage. Et en plus, tout en préservant la vie de l'arbre, puisque finalement, au lieu de couper un arbre en entier, on le laisse en vie et on récupère du bois tous les ans sur cet arbre ou tous les 2 ans selon les espèces. Et ensuite, on peut quand même préciser que le bois de frêne est quand même un bois de bonne qualité pour faire des manches d'outils diverses, mais aussi utilisé pour les menuisiers, pour faire du meuble ou les ébénistes. On peut passer maintenant à l'orme. L'orme, c'est un arbre qui fait des petites feuilles dentées et on va le reconnaître parce que justement, la base de ces feuilles au niveau du pétiole, la base de ses feuilles n'est pas symétrique. Ça veut dire qu'on a un bord qui est plus bas que l'autre. Donc ça, c'est assez caractéristique de la feuille d'orme, une feuille dentée avec une base asymétrique. Alors, l'orme propose un bois très dur et de très bonne qualité et qui a vraiment une très bonne réputation en ébénisterie et en outillage, etc. Vous connaissez probablement la loupe d'orme hein, qui est très recherchée pour ses qualités de dureté mais aussi visuelles hein, parce qu'on a un très beau veinage du bois qui est utilisé en marqueterie ou en ébénisterie. L'orme était aussi entretenu dans les haies pour sa qualité nutritionnelle des feuilles. Et comme on l'a dit pour le frêne, il servait à nourrir le bétail, mais aussi à engraisser les truies et apparemment permettait d'augmenter la production de lait. Alors nous aussi, on peut utiliser les feuilles d'orme comme des feuilles de thé finalement, et on va en faire des tisanes ou du thé, ce qu'on appelle le thé d'orme. Et les feuilles séchées ont aussi été utilisées pour faire de la farine, donc réduite en poudre. Elles ont pu compléter les farines pour faire les pains ou les gâteaux, en période de sécheresse notamment, quand les cultures produisaient assez peu ou trop peu. Les feuilles séchées peuvent être aussi utilisées dans la soupe pour enrichir en nutriments parce que ce sont des feuilles qui sont intéressantes d'un point de vue nutritif. Et l'orme est, on peut dire, le remède des maladies de la peau. Et on va utiliser les feuilles d'orme ou alors encore mieux le cambium, hein, c'est la sous-peau en dessous de l'écorce finalement. On peut faire des décoctions de feuilles ou de cette sous-écorce pour se soigner les dartres, les eczémas secs, les éruptions cutanées, etc. Mais aussi les plaies, les gerçures, les engelures, les brûlures et les cicatrices. Donc c'est une plante qui est très intéressante pour toutes les affections cutanées. Alors c'est vrai qu'on a un petit souci avec l'orme. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'orme est en voie de disparition à cause de la graphiose. La graphiose de l'orme est une maladie qui en fait attaque les vieux arbres et qui est transportée par un coléoptère qui s'installe que sur les vieux et les gros troncs. C'est pour ça que finalement on ne retrouve plus ou très rarement de très vieux ormes, de gros ormes. Ça reste un bois qui est excessivement rare. Mais que l'espèce en elle-même n'est pas menacée. Parce que des jeunes ormes, on en a beaucoup, et ils ont le temps de se reproduire, de faire des fleurs et des graines. Et donc l'espèce n'est pas menacée, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à vieillir. Au bout d'un moment, le champignon attaque les vaisseaux des gros troncs. Maintenant, on va parler évidemment du chêne. Donc le chêne, bah ça vous le connaissez bien, hein. Vous savez très bien déjà que c'est un bon bois de chauffage qui peut être utilisé comme arbre têtard, comme on l'a vu tout à l'heure, pendant les mondages, récupérer le bois nécessaire et prélever sur un individu plutôt que de l'abattre, mais aussi utilisé comme bois d'œuvre hein, pour faire des charpentes aussi et de la menuiserie, etc. Le chêne est utilisé aussi dans la méranderie, l'activité qui consiste à faire les mérins pour faire des tonneaux et des fûts. Dans une région viticole, le chêne est bien utilisé aussi pour ça, puisque vous le savez en plus que le chêne va permettre de donner un goût particulier au vin. Et d'ailleurs, les anciens utilisaient aussi l'écorce ou les feuilles de chêne pour clarifier leur vin maison. Donc ils le faisaient tremper et ensuite ça a donné aussi en plus un espèce de goût de baril de chêne à leur vin maison qui souvent était de piètre qualité. Le chêne a aussi fait partie des plantes qu'on a effeuillées ou ébranchées hein, pour nourrir le bétail. Il est moins apprécié parce qu'il est très riche en tanins, mais il faut quand même pas oublier que les chênes sont une source d'aliments non négligeables, que ce soit pour la faune sauvage, pour le bétail, mais aussi pour l'humain, si jamais ça devenait nécessaire, puisqu'ils produisent énormément de glands, et les glands peuvent être utilisés comme farine et ou comme succédané du café. Donc on va se retrouver avec la possibilité de faire des pains de farine de glands, plutôt que de la farine de blé, si jamais on manquait de blé. Comme je l'ai dit, les glands, les feuilles de chêne aussi sont très riches en tanins. Donc, ils vont avoir un intérêt médicinal contre les saignements parce qu'ils vont être très astringents. Donc, ils vont permettre de resserrer un petit peu tous les micro-vaisseaux capillaires. Et ensuite, ça va permettre donc de limiter des hémorragies internes, utérins, intestinaux, etc. Aussi, dans les cas de diarrhée, notamment pendant les cas de gastro-entérite, ça peut être intéressant pour tout ce qui est micro-saignement et puis les dérangements intestinaux. Les tanins sont aussi tonifiants pour les problèmes de peau et ils vont pouvoir permettre aussi de soigner des eczémas, mais aussi aider à la cicatrisation de plaies. Et toujours par sa propriété astringente, on va pouvoir l'utiliser en gargarisme ou en bain de bouche pour soigner des grosses angines ou encore des aphtes et des gingivites. Et en plus, on va profiter de la propriété anti-inflammatoire des tanins. Vous voyez aussi régulièrement l'érable champêtre. C'est l'érable qui aura des feuilles à 5 lobes, à la différence de l'érable de Montpellier qui a des petites feuilles à 3 lobes. L'érable champêtre, c'est une plante qui est très intéressante d'un point de vue médicinal. Déjà, on a les bourgeons qui peuvent avoir une action hypoglycémiante et aussi diminuer le taux de cholestérol et constitue un remède intéressant contre l'artérosclérose. Et donc, on parle là de la gémothérapie, c'est la thérapie par les bourgeons, mais on peut aussi utiliser les feuilles pour faire des infusions. Mais on va pouvoir aussi utiliser les jeunes feuilles en les consommant comme salade. Et surtout quand elles sont toutes jeunes, là, toutes tendres, qu'elles viennent juste de débourrer, elles vont être agréables dans une salade mixte. On peut aussi utiliser la sève. Donc, vous connaissez tous un petit peu le sirop d'érable. Hein. Ce n'est pas l'érable dont on parle. Le sirop d'érable, c'est l'érable sycomore. Mais là, l'érable champêtre peut aussi produire une sève sucrée qui pourra nous aider à préparer des sirops. L'érable va produire aussi des fruits qu'on appelle des disamars. Et ces fruits peuvent être consommés quand ils sont tout jeunes, tout verts et tendres. Ils peuvent être consommés après une mise en saumure, un peu à la manière de cornichons. Ce sera un aliment assez riche en protéines végétales. Un autre intérêt de l'érable, hein, qui est non négligeable, c'est que c'est une essence qui est très intéressante pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Mais il faut savoir quand même que, a priori, dans certaines régions, un hectare d'érable est capable de produire près de 500 kg de miel. Donc on se retrouve avec une grande production de miel et qui est intéressante pour l'humain, mais aussi très intéressante pour les abeilles. Le bois d'érable est aussi très utile pour faire des manches d'outils, des crosses de fusil, des pièces de charronnerie. C'est un bois stable et peu vermoulé et il est idéal pour la menuiserie et la tournerie. Alors, on a parlé tout à l'heure vite fait de l'érable de Montpellier qui, lui, est très utile et souvent utilisé pour agrémenter des haies. Et des haies brise-vent aussi notamment. Et en plus, il a les deux hein, d'ailleurs, ont au moins l'avantage de nous apporter de très jolies couleurs à l'automne, hein, allant du jaune à un orange pétant et flamboyant. Alors le bois de l'érable Montpellier ressemble un petit peu à celui de l'érable champêtre, tout en étant un peu plus coloré et plus dur, et aussi plus lourd. Mais malheureusement, c'est pas courant de trouver des gros érables de Montpellier sur notre territoire, bien qu'il en existe quelques-uns, voire même des fois des hybrides entre les deux érables. Nous allons passer maintenant aux arbustes. On commence par le noisetier. Alors le noisetier, bon, vous le connaissez déjà forcément bien par le fait qu'il nous offre des noisettes, quand même un fruit qui est l'un des plus riches en lipides, en protides, en vitamines et en sels minéraux. Donc c'est quand même déjà non négligeable comme service. Après, vous savez peut-être que le noisetier fait partie des espèces qu'on peut utiliser en trufficulture. Donc on peut éventuellement trouver de la truffe au pied de haies où il y a du noisetier. Vous connaissez l'usage des rameaux fourchus de noisetier par les sourciers qui allaient chercher les sources, mais aussi dans d'autres cultures, les baguettes de noisetier servaient aussi à chercher des trésors. Et donc la baguette de noisetier est un petit peu considérée comme magique, entre guillemets, et donc fait partie un petit peu du folklore, mais aussi des usages d'anciens, notamment pour retrouver l'eau sous terre. Alors les rameaux sont aussi utilisés pour faire de la vannerie, donc ça c'est aussi un usage intéressant par nos anciens. Et en termes de propriétés médicinales, le noisetier a des propriétés amaigrissantes, mais aussi anti-hémorragiques, anti-sudorales, dépurative, astringente et fébrifuge aussi. Et la gémothérapie va aider tous les problèmes respiratoires, l'asthme, les bronchites, etc. Alors, je vous propose une petite pause avec une chanson de Louise Haussmann qui nous chante le frêne sur de jolies notes d'accordéon.
Au milieu des chênes lourds, dans la forêt qui t'appelle, tes feuilles parlent d'autres jours. Frêne, frêne. Ne crois pas ceux qui sont sourds, rabats les bords de ta grève, ne noie pas ton tronc si court. Frêne, frêne. Dans le mensonge et l'image, l'indifférence et l'ennui, tu n'as pas les mots d'un brave, mais tes branches frissent aussi. Frêne. Sous le poids des grands discours, tu vacilles sous les rêves de ce qui t'a fait un jour. Frêle, frêne. Tu es frêle sous la grêle et crains la chaleur des fours, mais tu réfrènes tes peines, il faut toujours être pour. Frêle, frêne. Car sous le feu de ta sève et le bruit de tes tambours, sous l'écorce de tes lèvres, tu as tué la nuit, le jour. Frêle. Tes feuillets avaient tant à dire, tes racines à raconter. Tu as préféré enfouir ce qui aurait pu gêner. Frêle, frêne. Les vieilles inconvenances qui partagent le monde en trois, du haut du ciel en partance jusqu'à la terre si bas. Frêle. Mais dans ton fort intérieur, il n'y a que ces fleurs-là qui fleuriront sous les heures au moment de ton trépas. Qui te gagne, tu t'habilles à la jour, lève ton mât de cocagne, maquillant ta cimentour. Frêne, frêne. Qui pourra te raconter, quand déjà te voilà sable, des doutes, vieilles idées, jamais sorties de ton marbre, trop pâle pour ceux qui pensent qu'un arbre c'est toujours droit, et t'enfonce quand tu penches sous la violence du mois. Frêne, frêne. Moi je sais que tu es lourd, et si les mots te manquèrent, c'était pour parler d'amour. Frêle, frêne. À quoi bon te raconter, puisque tu n'étais pas là, dans les yeux de ces poupées qui ont fait feu de ton bois. Frêle, frêne. Toute une vie à attendre, et peut-être à exister, t'efforçant à te méprendre, te voilà caveau scellé, te voilà caveau scellé.
Nous revoilà dans l'émission Le Temps des Fleurs où nous parlions des plantes qui habitent les haies et surtout des usages qu'elles peuvent nous apporter. Nous passons maintenant au prunier Sainte-Lucie, le Prunus mahaleb qui s'appelle aussi le bois de Sainte-Lucie. Alors, le bois de Sainte-Lucie, il prend son nom du fait que dans un couvent, le couvent de Sainte-Lucie du Mont, qui est situé sur les hauteurs en Meuse, a développé un artisanat d'objets religieux fabriqués dans le bois de cette essence, qui était et qui est relativement abondante autour du couvent. Et donc, on peut aussi, grâce à ce bois, fabriquer des fourneaux de pipe, des manches de parapluie, des petits objets en fait, hein, puisqu'on est sur un arbuste et donc on n'a pas du gros bois. Ce prunier a aussi l'avantage d'être un bon porte-greffe tout-terrain, puisque bah, vous pouvez le retrouver sur nos cosses, hein, sur des terrains secs, mais aussi sur des terrains plus frais. Donc, il a cet intérêt-là. En cuisine, il va produire une épice. En cuisine gréco-orientale, le nom de l'épice, c'est le mahaleb ou le malépi. Et ça donne le nom de Prunus mahaleb. Et cette épice est faite à base de l'amande qui a été mise en poudre. Alors, il ne faut pas en abuser de trop parce que c'est connu que les amandes de noyaux de prunier sont potentiellement riches en cyanure, mais elle peut être utilisée de façon sporadique et apparemment elle est quand même assez utilisée en Turquie pour faire des plats sucrés ou salés parce que le goût de cette épice fait une combinaison entre l'amande amère et la cerise. Et donc on peut l'utiliser pour rehausser le goût de gâteau ou aussi de plats salés. Avec les fruits de ce prunier, il existe une liqueur qui est faite dans les Hautes-Alpes, qui s'appelle la pétafoire, qui en fait est tirée vraiment de la macération des fruits dans l'alcool et qui est réputée pour aider à la digestion. Passons maintenant à un prunier que vous connaissez bien, c'est le prunelier. Son nom latin c'est Prunus spinosa. Ben là, forcément, c'est, on va dire, le bon exemple d'arbuste utile pour faire des éclôtures, hein, parce que vous savez qu'il a de bonnes épines bien acérées. Mais il a aussi l'intérêt de produire énormément de prunelles, donc ces petits fruits violacés qui sont très riches en vitamine C, donc très intéressants pour la santé, mais aussi pour la nutrition. Alors l'idéal, c'est quand même de les récolter après les geler pour les rendre moins astringentes. Donc une fois qu'elles sont blétties, elles sont, on va dire, beaucoup plus douces et agréables à cuisiner ou à manger. Par contre, si vous voulez les récolter avant les premières gelées, parce que bon, c'est vrai que si on laisse passer les premières gelées, souvent les oiseaux sont passés avant nous. Donc si vous voulez récolter avant, vous pouvez toujours et vous les passez quelques temps au congélateur et finalement on mime les premières gelées avec cette démarche. Donc une fois qu'elles sont prêtes, on peut faire de la sauce de prunelle pour accompagner des plats de viande, notamment des plats de gibier qui sont forts en goût et avec lesquels la prunelle s'associe bien. On peut les mettre aussi dans les pâtés de gibier, c'est le côté un petit peu sucré, sympathique, mais pas trop. On a la possibilité aussi d'utiliser des prunelles à l'apéro en remplaçant les olives. Donc on va les utiliser en faisant une saumure qui va supprimer naturellement la âpreté et ça va permettre de les conserver aussi pour les pouvoir les utiliser de façon diverse dans la cuisine, dans d'autres plats. Évidemment, qui dit fruits dit aussi la possibilité de faire des confitures ou des gelées de prunelles, hein, qui est plutôt sympathique. On peut faire évidemment du sirop, du jus de fruits, mais aussi du vin de prunelles en faisant une macération, hein, un peu comme on l'a vu tout à l'heure pour le prunier Sainte-Lucie, on fait la pétafoire. Bon, bah là, on peut faire une macération de prunelles et vous connaissez peut-être une liqueur aussi qui est connue du Pays Basque, qui s'appelle le patcharan. Bref, de quoi donc finalement avoir quelques petits apéritifs pour accompagner nos petites olives de prunelles. Et dans certaines régions, comme en Vendée, on prépare aussi un vin aromatisé aux jeunes pousses d'épinette. Et elle s'appelle la trouspinette. Les prunelles ont aussi un intérêt médicinal parce que justement leur âpreté va être assez efficace contre les gingivites et les aphtes. Hein. Il y a l'aspect, la propriété astringente hein, qui va agir là-dessus. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, la richesse en vitamine C est très utile pour lutter contre les coups de fatigue et les maladies diverses et requinquer une personne en cours de convalescence. On va parler du deuxième arbuste épineux des haies, c'est l'aubépine. On vient de voir le prunelier qui est nommé souvent épine noire, et bien là l'aubépine elle est nommée épine blanche. Alba spina. Son nom latin c'est Crataegus monogyna. C'est la copine idéale pour faire des haies infranchissables par le bétail ou qui que ce soit d'autre de grosse taille. Les aubépines produisent des fruits que l'on appelle des senelles. Alors les senelles ne vont pas avoir un grand intérêt culinaire parce que ça reste des fruits quand même assez fades et on va dire même pas juteux, plutôt farineux. Mais elles ont été utilisées pour compléter des farines de blé en période justement de disette. Réduites en poudre, elles vont apporter des nutriments différents et complémentaires à la farine de blé et un goût aussi complémentaire. L'aubépine, on peut dire que c'est la plante du cœur parce qu'on va pouvoir utiliser les fleurs et les feuilles et les bourgeons pour réguler un petit peu toute cette sphère cardiaque et notamment réguler la tension artérielle. Elle a aussi des propriétés antispasmodiques, sédative, donc intéressante en cas d'insomnie légère ou de problèmes d'anxiété. Elle va réguler les petits problèmes d'arythmie, les insuffisances cardiaques et elle va prévenir les risques d'infarctus du myocarde ou alors les angines de poitrine. Elle va aussi aider dans ces problèmes d'arythmie, hein, les problèmes de tachycardie, d'extrasystole, un petit peu tous ces troubles d'excitabilité du cœur. Elle a aussi la propriété d'améliorer la mémoire en stimulant l'irrigation du cerveau et donc ainsi de mieux l'oxygéner. Comme le prunier Sainte-Lucie, c'est un bon porte-greffe aussi, donc intéressant à positionner dans les haies pour pouvoir offrir diverses fruits. Son bois est intéressant parce que c'est un bois résistant au frottement. Et donc très utile dans ce qui est les pièces de mécanique. Mécanique de précision aussi, et pour faire par exemple des robinets de tonneaux. Donc l'aubépine a pas mal d'usages intéressants, et c'est une des raisons pour lesquelles on les trouve souvent dans les haies, mais on les trouve aussi souvent autour des maisons, parce qu'elle est considérée depuis bien longtemps comme une plante protectrice. Alors, il paraîtrait que la foudre ne la frapperait jamais. Oui, parce qu'il y a une croyance autour du fait que la foudre, qui est l'œuvre du diable, ne peut pas atteindre une plante qui a touché le front du Christ, puisque il est dit que la couronne du Christ a été faite notamment avec de l'aubépine. Au final, autour de cette notion de protection de l'aubépine, il y a plusieurs croyances, et il y en a notamment une qui dit « Asseyez-vous au pied de cet arbuste lorsque s'ouvrent les premières fleurs et le vœu que vous formulerez sera inéluctablement réalisé, à moins que les fées qui y dorment aient été outragées par l'une de vos actions. » Alors pourquoi pas essayer, ça ne coûte rien. Est-ce que vous avez une idée de la longévité d'une aubépine? On en voit très souvent des aubépines, mais on n'en voit pas souvent de très grosses. On a un record en France qui se trouve dans le département de la Mayenne. On a une aubépine qui fait à peu près 9 mètres de haut et qui a été estimée à un âge de 1700 ans. Comme quoi, c'est pas forcément la taille d'une plante comme un arbre qui va impliquer une longévité. Et un arbuste, qui est quand même un gros arbuste, hein, finalement 9 mètres, peut vivre bien plus longtemps que certaines espèces d'arbres. On ne peut pas parler des plantes, des haies, sans parler du sureau. Le sureau, quand même, ça c'est vraiment l'arbuste qui est très intéressant pour plein de domaines. notamment, ben déjà vous le savez très bien, l'alimentation, hein, les fruits et les fleurs. Donc les fleurs, on va pouvoir s'amuser à faire du vin de sureau, de la limonade, des sirops, des infusions, etc. Les fruits, vous connaissez aussi l'usage. Ils peuvent être utilisés pour faire des confitures, des tartes, mais aussi de la liqueur, etc., etc. Toutes des choses très bonnes et très agréables. Mais on fera bien attention de n'utiliser que les fruits et les fleurs, parce que finalement, le sureau produit de la sambunigrine au niveau des feuilles, de l'écorce et un petit peu quand même dans les fruits. En fait, il s'agit d'un composé cyanogène qui peut, après absorption, libérer dans notre corps de l'acide cyanhydrique toxique qui, du coup, se transforme par un processus enzymatique. Mais par contre, une fois que les fruits sont cuits, le composé a été détruit. Et donc, quand on utilise les fleurs de sureau, l'idéal, c'est quand même de retirer un maximum de rameaux qui portent les fleurs et qui peuvent contenir cette substance. Le sureau porte le surnom de pharmacien de la maison parce qu'il peut être utile dans différents domaines de la santé, mais surtout utile dans les problèmes causés par l'hiver, donc les maux d'hiver. Donc il va pouvoir être intéressant dans des tisanes parce qu'il va faciliter la transpiration et aider le corps à évacuer ses toxines. Il sera utile aussi pour les bronchites, les grippes et les rhumes parce qu'il a une action un petit peu anti-inflammatoire. Et il est aussi intéressant en tant qu'anti-rhumatismal. Les infusions de fleurs, mais aussi le vin de sureau, peut avoir une petite action sur les douleurs rhumatismales. Et évidemment, on va essayer de ne pas trop abuser du vin de sureau parce que ça peut avoir d'autres effets négatifs. Et on peut utiliser le sureau comme plante détoxifiante en cure de printemps, par exemple. Il n'offre pas forcément un bois très intéressant parce que ses rameaux sont souvent assez fragiles et sont creux. Mais par contre, on va plutôt pouvoir utiliser ses branches pour faire une flûte qui s'appelle le sambuqué et qui porte son nom parce que le nom du latin du sureau, c'est Sambucus nigra. Vous pouvez aussi faire avec ses branches un bouffadou pour pouvoir allumer plus facilement votre feu. Cet arbuste accompagne les humains depuis bien longtemps et il est à la fois vénéré parce qu'il est considéré comme un abri de nombreuses créatures féeriques, mais il est aussi craint parce qu'il a été représenté comme porteur de mort et de trahison dans les croyances chrétiennes. Et c'est notamment lui, l'arbre de Judas, qui aurait supporté la pendaison de Judas. Alors c'est un arbuste qui est lui aussi est associé à la notion de protection et de bienveillance maternelle. C'est pour ça qu'on le retrouve quand même assez souvent à proximité des maisons. Et cet aspect de protection se retrouve aussi chez les marcheurs qui avaient souvent un bâton de marche en sureau parce que le bois de sureau est un peu considéré comme magique par ses croyances autour de la protection, mais aussi pouvait y dissimuler des biens précieux justement parce qu'il a un bois creux. Alors il paraît aussi que s'endormir sous un sureau noir pourrait nous exposer à des rêves érotiques. Alors ça, voilà, je vous laisserai éventuellement essayer si vous voulez au printemps. Bref, en tout cas, on a tout intérêt à mettre des sureaux dans nos haies puisque non seulement sont des plantes qui sont très jolies quand elles fleurissent, mais qui peuvent nous apporter pas mal de choses pour agrémenter notre vie quotidienne. On peut passer à un autre petit arbuste qui est la viande lantane, hein, qui est assez caractéristique des sols calcaires. Et elle va produire des fruits qui ne seront pas comestibles quand ils ne sont pas mûrs, hein, parce qu'ils sont toxiques. Mais finalement, les fruits ne sont pas d'un grand intérêt pour la consommation culinaire. Par contre, on peut dire que c'est une plante des poumons, qui va être intéressante en gémothérapie pour soigner les problèmes d'asthme et de bronchite. Les jeunes rameaux, eux, ont été utilisés aussi beaucoup en vannerie pour tresser l'osier, notamment. Et on a utilisé aussi ces rameaux pour faire des toits de chaume pour couvrir les maisons. Voilà. Alors, nous avons ensuite un autre arbuste qui est le cornouiller sanguin. Vous pouvez le reconnaître à certains moments dans la saison où il a ses rameaux rouges. Et le cornouiller sanguin est un bon exemple de la théorie des signatures. La théorie des signatures vient de nos anciens qui, en observant la nature, ont remarqué que certaines plantes avaient en fait des formes qui pouvaient rappeler des organes du corps humain. Et ils ont considéré que ça pouvait être un signe de Dieu et donc que ces plantes avaient le pouvoir de soigner cet organe. Alors, il y a beaucoup de plantes qui font partie de cette théorie des signatures ou qui ont fait et qui ont vraiment une capacité à soigner ces organes. Par contre, il y en a quelques-unes pour lesquelles ça n'a pas forcément marché. Mais là, donc, le cornouiller sanguin est un bon exemple de la théorie des signatures parce que, justement, il a des rameaux rouges. Alors, ces rameaux rouges, ben, ils font penser à quoi ? Ils font penser aux veines et aux vaisseaux sanguins. Et ils ont considéré que cette plante était utile pour la circulation sanguine. Et c'est le cas. Parce que en gémothérapie, elle améliore la circulation sanguine. C'est un bon drainant et anti-inflammatoire des artères. On peut aussi considérer que c'est une plante du cœur. Hein. Ça va être un bon fortifiant du cœur qui va tonifier aussi les artères et qui va prévenir des infarctus, qui va avoir une action anticoagulante. Alors, on a parlé du cornouiller sanguin. On pourrait parler du cornouiller mâle qui est quand même un peu moins fréquent. En tout cas, dans une partie du département, on le retrouve très fréquemment sur le COS. D'ailleurs, on l'appelle le mimosa du COS, mais c'est vrai que lui, le cornouiller mâle, va nous offrir les cornouilles qui peuvent être intéressantes à utiliser pour faire des confitures, des tartes, mais aussi des liqueurs. Et il offre un bois très dur et très dense. Nous avons ensuite dans les haies le trouenne commun. Donc la particularité du trouenne, c'est qu'il est sempervirent. Ça veut dire qu'il garde ses feuilles toute l'année. Et donc il est toujours vert. C'est un intérêt non négligeable quand on veut faire des haies parvues, bien qu'il est toujours bien de le mélanger avec d'autres essences, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est sa petite particularité. Et il est d'ailleurs très utilisé dans certaines régions pour faire des haies artificielles, mais qui va en plus donner un parfum délicieux avec ses fleurs. Les fleurs donnent un parfum vraiment très prenant quand on passe à côté au bon moment. Le trouenne offre aussi la capacité de faire des liens avec ses rameaux. D'ailleurs, son nom latin, c'est Ligustrum vulgare, qui vient de ligare, qui veut dire lier. Avec les baies, on ne va pas pouvoir les consommer parce que ce sont des baies toxiques, mais par contre, on va pouvoir les utiliser pour faire des teintures végétales ou encore pour faire de l'encre noire violacée utilisée pour faire de l'enluminage, par exemple. Nous avons encore le fusain que nous pouvons trouver régulièrement dans les haies. Donc le fusain va faire des petits fruits rose-orangés qui sont très particuliers et qui sont très visibles et très pétants. Ces fruits sont réputés toxiques, mais peuvent être intéressants pour lutter contre les problèmes de parasites en tant qu'insecticide. Et donc il va pouvoir aider à débarrasser des galles, des poux et des autres acariens. Il a été utilisé aussi en tant que purgatif et aussi vomitif, mais comme il est assez violent, il n'est plus utilisé maintenant. Donc c'est pour ça que si on veut l'utiliser pour lutter contre des puces, par exemple, il vaut mieux éviter de mettre la poudre de fruits directement sur un animal qui est susceptible de se lécher. C'est plutôt utile pour désinfecter un sol ou une paillasse ou un tapis, etc. Le fusain porte bien son nom puisqu'il va produire un outil qui est très connu des dessinateurs, c'est le fusain. Et donc en fait, c'est un rameau carbonisé dans un vase clos. Nous passons maintenant aux ronces. On ne peut évidemment pas parler des haies sans parler des ronces. Alors les ronces, il y a énormément d'espèces de ronces différentes. Rien qu'en France, on peut compter plus de 500 espèces qui sont bien caractérisées. Mais c'est un genre qui est quand même relativement complexe taxonomiquement parlant, parce que finalement, il n'y aurait que 6 espèces en tant que telles qui ont la capacité de se reproduire de façon sexuée, donc avec un réel brassage génétique. Et en fait, tout le reste, on est à environ près de 500 hybrides qui se reproduisent de façon asexuée, comme des clones, quoi, avec des rejets, etc. Donc les ronces, dans les haies, elles ont tout leur avantage de constituer des clôtures impénétrables, ça vous le savez très bien. Le bétail ne peut absolument pas traverser un roncier. Évidemment, les ronces nous produisent un fruit qui est très connu, c'est la mûre. Donc ça, je ne vais pas vous en raconter plus sur les intérêts de ce fruit. On peut aussi utiliser les jeunes feuilles qui viennent juste de débourrer. On appelle ça des turions. Et donc les turions vont être utilisés soit dans l'alimentation, comme pour mettre dans des salades mixtes. Mais on peut aussi utiliser les turions pour se soigner et en faire des infusions ou des gargarismes. C'est une plante qui sera très utile pour guérir un petit peu tous les maux d'hiver, notamment pour soigner les problèmes de bronchite, pour soigner les angines et les pharyngites. Avec un gargarisme, là, c'est assez efficace. Et ensuite, les infusions de turions, mais aussi les fruits, sont très utiles pour améliorer les défenses immunitaires. Le côté astringent que l'on retrouve dans la décoction de turions va être utile pour faire des bains de bouche et donc de soigner les aphtes et les gingivites. La décoction des feuilles sera aussi utile contre la diarrhée. Et en plus, c'est un bon antiviral, notamment dans les périodes de gastro-entérite. Et c'est intéressant de savoir aussi que les ronces sont une bonne source d'hormones naturelles pour favoriser la croissance des plantes. Donc on va pouvoir utiliser des macérations de rameaux de ronces pour faire des eaux de bouturage, par exemple, et donc ainsi vous permettre de favoriser la formation de radicelles de vos boutures. Et ensuite, on a la possibilité d'utiliser les rameaux de ronces pour faire de la vannerie, des liens et des cordes qui sont relativement résistantes. J'aurais pu également vous parler de l'églantier, les rosiers sauvages, mais on a déjà fait une émission sur cette plante et il va être temps que je vous laisse. Et là, je vous laisse avec un morceau intitulé Pagan Purity du groupe Elvenking, qui est un groupe de folk et de power metal italien, donc ça va bien nous réveiller. C'est une chanson qui parle de la nature sur différents plans. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu, ces deux émissions sur les haies, de préserver et de faire en sorte de favoriser le développement des haies autour de chez vous. Parce que vous avez vu qu'à travers ces deux moments ensemble, il y a énormément d'avantages à avoir des haies bien structurées et bien diversifiées pour tous les usages et tous les rôles qu'elles peuvent avoir dans notre environnement et indispensable finalement à un bon équilibre des écosystèmes dans lesquels l'humain fait partie intégrante. Voilà, c'était Caroline de l'association Primula Plantes et Hommes. À bientôt.